J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur l'information, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un souci par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans une forme d'infobésité, c'est-à-dire de surplus d'informations inutiles, frelatées, biaisées, de propagande d'une certaine manière, et que au bout du compte, on n'a pas l'info fine qui permettrait de se façonner un esprit critique et qui permettrait par la suite, si j'ai bien compris, des alliances opérationnelles entre les peuples sans ne jamais devoir recourir justement à ces instances dont on voit bien qu'elles sont soit coincées si elles sont sincères, soit carrément corrompues. Je dis ça parce que je veux prendre un exemple. Actuellement, depuis plus d'un mois, se tient un maxi-procès en Italie du Sud concernant la 'Ndrangheta, qui est la branche de la mafia de Calabre, qui est extrêmement impliquée dans le trafic de cocaïne et qui va donc... qui a des alliances avec en Colombie pour justement cette production de cocaïne. En Italie, ce procès, il est passé sous silence, quasiment passé sous silence, alors qu'il est, c'est le maxi procès le plus grand depuis le fameux grand procès antimafia qui a vu Borsellino et Falcone et les deux juges antimafia mourir. Après avoir été sous les bombes, sous les attentats de la mafia. Et il y a actuellement un procureur qui s'appelle Gratteri, qui est le procureur qui est à la base de ce maxi-procès, qui lui-même s'est rendu à plusieurs reprises en Colombie, qui a été menacé et qui l'est toujours. Et il faut savoir que ce procès se fait dans un hola, dans une cour blindée, hein, c'est vraiment avec des caméras autour. Et même en Italie, ce procès reste extrêmement méconnu. Et quand on tente de faire parler des personnes, eh bien c'est compliqué. La question est la suivante. Selon vous, est-ce que c'est ce déficit d'informations éclairées, d'informations sourcées, véritables, critiques, qui nous manque, ça c'est le premier volet de la question, et corollaire de cette question, est-ce que le fait qu'on arriverait, en tout cas qu'on appelle de nos voeux cette information fine, permettrait à des alliances opérationnelles, populaires, entre les peuples, de surgir et d'infléchir cette situation qui, parce que Ringo, quand on t'écoute, effectivement, c'est extrêmement éclairant, mais c'est dur, parce qu'on se dit, mais on est dans une impasse. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut sortir de cette impasse? Et est-ce que, voilà, cette question de l'information et des alliances populaires, peut-être en évitant, les instances de tout type, dont on sait les limites qui les touchent, eh bien, est-ce que ce serait un début de solution?
Effectivement, il y a un système du capitalisme globalisé qui s'alimente avec toute la question des traités de libre-échange, par exemple, qui existe notamment entre la Suisse et la Colombie, et que toute cette articulation d'intérêts économiques importants font que effectivement l'Union européenne, la Suisse, les États-Unis sont alliés de l'oligarchie colombienne. Ça, je pense que c'est assez démontré. Et puis ce que Ringo a dit à ce propos-là me semble pertinent. Donc il faut pas s'attendre à ce que les principaux dirigeants des Nations Unies ou du Haut Commissariat aux droits de l'homme aillent mettre tout leur poids pour essayer de délégitimer le gouvernement de Duque. Tout bien le contraire, disons, ils chercheront à le légitimer, et surtout dans le cadre du silence, parce que je pense que là il y a quand même quelque chose à faire au niveau international. Sur ce point, je peux partager le pessimisme, disons, concernant ce contexte. Donc je partage ce pessimisme par rapport à ce qu'il y ait des changements immédiats, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire au niveau de l'information, parce que si les chancelleries savent ce qui est en train de se passer, je pense qu'au niveau de la population, au niveau de la société civile, il n'y a pas suffisamment d'informations. Et ça, c'est une tâche qu'on doit accomplir, nous. Et je pense que ça peut être un facteur important de motivation aussi pour les mouvements actuels en Colombie, de savoir que ils ont des compatriotes déjà colombiens qui se mobilisent à l'extérieur pour solidariser, et qu'il y a aussi d'autres peuples qui s'intéressent à la situation colombienne et qui font de la solidarité et qui diffusent de l'information. Ce travail-là, il me semble que justement, puisque le niveau de relation est tellement fort entre les États-Unis, l'Europe et l'oligarchie colombienne, puisque cette relation est aussi forte, ce travail internationaliste est d'autant plus important. Parce que si le peuple colombien, il s'affronte déjà à la brutalité de ce pouvoir-là en Colombie, il peut pas s'affronter tout seul à ce pouvoir mondial. Et c'est pour ça qu'il faut ajouter, même si c'est très modeste aujourd'hui, il faut chercher à faire des liens entre les différents secteurs de lutte qui sont les plus radicaux ici en Europe, pour que, notamment sur toutes les questions qui concernent les échanges commerciaux, toutes les questions qui concernent... Aujourd'hui, en Suisse, on a une série de votations qui vont pas se terminer cette année sur la question de comment consommer, quel type de produits il faut consommer, est-ce qu'ils doivent respecter certaines normes sociales et environnementales. Et très souvent, tout cet agenda pseudo-écologique vise pas à vraiment avoir un monde qui soit plus social et plus écologique. C'est des faux arguments qui nous sont présentés aussi, parce que notamment si, par exemple, on détruit l'agriculture suisse, on ne permet pas aux agriculteurs de vraiment réaliser un programme de souveraineté alimentaire. D'où vont venir nos produits de consommation? Ils vont venir de l'étranger. Et ces produits de consommation à l'étranger, notamment en Colombie, puisque Ringo aussi mentionnait toute la question de l'éthanol, ça va se produire là-bas dans les conditions qu'on sait. Et c'est pas en essayant d'étiqueter tous ces produits de supposément développement durable que ça va changer quelque chose en Colombie. Donc c'est aussi, si on arrive ici en Europe, en Suisse, à développer des luttes qui permettent notamment en termes d'écologie ou en termes de notamment sur les questions d'agriculture, si on essaye on réussit à se battre ensemble pour une véritable souveraineté alimentaire, pour véritablement faire de la production locale, tout ça c'est des luttes qui sont liées à la rupture avec ce système capitaliste global qui exploite le Sud dans des conditions horribles pour baisser les prix pour qu'ils soient consommés ici. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, Ringo l'a dit souvent, a fait une critique. Dans plusieurs de ses interventions à la gauche européenne, que je partage totalement, mais c'est pas pour ça qu'on peut rien faire et qu'il y a rien à faire et qu'on peut pas s'articuler entre différents secteurs qui, bien que ça soit très minoritaire, sont en train de se développer pour aussi mener des luttes anticapitalistes ici en Europe et en Suisse.
Ouais. Est-ce que c'est possible d'alliance pour avoir des informations? Si, c'est possible, mais ces moyens de communication doivent être liés au mouvement populaire, il doit être du mouvement des gens qui militent, des gens qui peuvent produire l'information de manière indépendante. Il faut bien sûr essayer d'entourer les journalistes parce que dans les derniers temps, sont presque complices de ce qui se passe en Colombie, hein, parce que vraiment, il faut pas non plus aller en Colombie pour voir, il suffit de voir n'importe quelle page d'un Colombien pour voir la quantité d'images sur l'assassinat froid des manifestants. Mais il faut faire ce travail, mais en fait, comme vous dites, cette alliance alternative de peuples, il ne peut être que fondée sur des mouvements populaires de masse, mais aussi des partis politiques de gauche, des gens bien, des gens progressistes, même des couches moyennes, même bourgeois, mais qui sont en amour, en intérêt, ont propagé la vérité, ont cherché la vérité. Mais pour cela, il faut vraiment des alliances, mais ces alliances dépendent beaucoup des progrès de ces forces. Si ces forces continuent à être très marginales, il est très difficile de faire des alliances parce que pour qu'on puisse donner du soutien à d'autres, nous devons être forts nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas forts, ce soutien il n'est pas déterminant non plus, même si on a toute la volonté du monde. Donc, ce qui est intéressant peut-être pour nous tous, ici en Europe, c'est qu'il faudrait que tous les gens qui sont progressistes puissent faire un séjour en Colombie pour voir comment travaillent les jeunes auprès de la population, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils se relationnent avec les gens, comment est-ce qu'ils développent leurs propres moyens de communication, comment malgré les conditions extrêmement difficiles, ils sont un mouvement de masse populaire, de masse vraiment, qui est partout, qui est dynamique, qui est sujet à toutes sortes de débats, qui est ouvert tout à fait à un large mouvement, comment est-ce qu'ils parviennent à le faire malgré les conditions si difficiles. Peut-être c'est une des choses les plus intéressantes, pas pour aller soutenir la Colombie, mais pour nous soutenir nous-mêmes, pour pouvoir développer notre travail ici en Europe.
Ouais. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien. Je vous remercie déjà beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour essayer de détricoter toute cette problématique qui, on le voit, est extrêmement complexe parce qu'elle est également occulte pour une partie de ce qui se passe. Esteban, on voit qu'il y a effectivement que le nerf de la guerre, c'est une guerre de classe, au bout du compte. Voilà, c'est que les classes pauvres, les classes populaires, eh bien, trinquent, continuent de trinquer, et que c'est vraiment sur elles que le poids du pouvoir pèse. Alors, pourrait-on dire que, voilà, pour continuer cette lutte-là, qui va certainement, probablement continuer en tout cas en Colombie, on l'a dit, on a parlé d'information, on a parlé de fragments de solidarité, de solidarité internationaliste, le fait de comprendre justement ces enjeux-là, avec ben voilà des médias qui soient l'émanation et l'expression directe des populations concerner des populations impliquées, notamment ben voilà toute cette partie d'automédias, hein, on les appelle un petit peu comme ça, les automédias, c'est-à-dire des productions médiatiques propres au mouvement en résistance. Selon vous, voilà, de quoi va être fait l'avenir, là, ces prochains jours, vers quoi est-ce qu'on va? Et puis, eh bien, comment est-ce que vous pensez qu'on arrive à se débarrasser, une bonne fois pour toutes, de ces acteurs du capitalisme financier, du capitalisme meurtrier? Et est-ce que pour s'en débarrasser, eh bien, une des pistes, une des dynamiques, c'est, comme vous l'avez dit, une convergence massive des populations internationales vers quelque chose de commun. Mais comment est-ce qu'on arriverait à déclencher, à mobiliser un ensemble suffisamment grand, suffisamment motivé et suffisamment durablement pour arriver, pour de vrai, à infléchir cette mainmise du capitalisme pour arriver à le dépasser?
Et pour commencer, moi, ce que j'aurais voulu dire un peu au début de l'émission, mais c'est une bonne occasion maintenant, c'est que personnellement, je ne suis pas surpris que le peuple colombien ait eu la capacité de mobilisation qu'il a eue actuellement. Peut-être que des personnes sont... les gens qui regardent peut-être un peu de loin ce qui se passe en Colombie ou en Amérique latine se rendent pas compte que il y a toute une histoire, il y a toute une charge historique et sociale qui fait que le mouvement est en ascension là depuis quelque temps. Et donc moi je suis pas surpris que cette journée du 28 avril ait été un succès en termes de mobilisation et que ça va continuer. Qu'il faut s'attendre à que ça va continuer parce que si le gouvernement a montré une faille en retirant son projet, c'est que la mobilisation elle va dans le bon sens, même si elle a encore à se renforcer et à grandir encore. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que Si on voit le contexte latino-américain, c'est pas étonnant non plus qu'on voit que des pays comme le Chili ou la Colombie, qui sont deux pays qui ont été en dehors de la vague progressiste, des gouvernements progressistes en Amérique latine depuis 20 ans, c'est pas étonnant que ces pays-là, qui se sont organisés, disons, la population s'est organisée et dans une contestation du pouvoir depuis très longtemps, aujourd'hui soit en train d'émerger avec autant de force. Je rajouterais avec une petite parenthèse, disons, la situation aussi du Pérou, où en tout cas au niveau électoral, il y a eu spontanément également une large partie de la population qui a donné son vote au premier tour à un candidat des régions rurales, les régions qui sont justement les plus arriérées parce qu'on n'en voit pas des ressources économiques pour développer ces régions-là, et que ce soit ces secteurs-là qui ont été négligés pendant des décennies et des décennies, aujourd'hui sont en train de s'organiser et en train de s'opposer d'une certaine manière à ce qu'on pourrait appeler la classe politique de manière transversale. Et je pense que ça, c'est aussi une force de pouvoir s'opposer à des secteurs qui sont soit de gauche ou de droite, mais qui sont quand même capitalistes et qui sont quand même dans la gestion du capitalisme. Et c'est important d'avoir des mouvements populaires d'opposition. S'ils sont anticapitalistes, ils ne peuvent pas soutenir des gouvernements ou des présidents qui ensuite vont simplement gérer le capitalisme et qui ne vont pas remettre en cause radicalement le système des traités commerciaux, radicalement mettre en cause la présence de l'armée des États-Unis avec des bases militaires en Amérique latine, et ainsi de suite, et des choses importantes où il faut vraiment rompre radicalement. Donc, sur le point que tu mentionnes sur la question de la convergence, c'est peut-être un provocateur, mais je crois qu'on est plutôt dans une situation de divergence. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment on diverge des politiques existantes et pas encore comment on converge entre les différents groupes qui sont en train de tenter de diverger avec le pouvoir. Donc, plutôt que de... Peut-être que c'est si on regarde de manière trop superficielle cette question-là, on pourrait dire, bon, converger, c'est simplement prendre les mêmes mots d'ordre. Mais je crois, par exemple, ici en Suisse, si on est capable de diverger avec ce pouvoir, de concertation entre des secteurs de gauche et de droite qui soutiennent ce système international. Sinon, on est capable, ici en Suisse, les groupes de la gauche radicale, les différents secteurs de la grève du climat ou de la grève féministe ou d'autres secteurs qui sont justement en train d'essayer de s'opposer au mode actuel d'exploitation et de domination. Si on arrive à faire ça, on va aider d'autres peuples aussi. Donc, ce n'est pas uniquement en essayant de reprendre et de s'émouvoir de ce qui se passe dans le monde. Mais si on arrive à remettre en cause aussi au niveau du centre, au niveau des centres impérialistes, si on arrive là aussi à mener une lutte qui est dure, mais à trouver des moyens de s'opposer à ce pouvoir, c'est comme ça aussi qu'on va réussir à gagner un espace qui nous permet ensuite d'avoir une alliance entre les peuples qui soit beaucoup plus forte. Mais on doit faire notre propre travail déjà. Ouais. Concernant la question des médias et des réseaux sociaux, un truc très pratique, je pense que effectivement on est souvent submergé par des informations, mais le travail... Il y a un travail important à faire, c'est un travail de traitement médiatique. On peut parfaitement diffuser une vidéo qui va montrer quelque chose qui peut-être des fois va être évident et des fois ne va pas être évident. Si simplement on le diffuse, on n'est pas en train de vraiment faire un traitement de l'information qui permet aux gens de comprendre. Et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment c'est très important et en même temps c'est très difficile parce que quand on fait partie des communautés impliquées, par exemple, quand il y a eu la situation du Chili, c'est clair que quand on reçoit et on est submergé par ces informations, on a beaucoup de difficultés à agir et à faire quelque chose parce qu'on est dans l'immédiat et des fois il faut prendre un peu de recul en se disant bon, la lutte elle va continuer, elle va pas terminer aujourd'hui. Elle va continuer demain, dans une semaine, dans un mois. Il y aura encore une lutte. Mais ce qui est important, c'est qu'on accumule des forces et des expériences pour faire mieux notre travail de solidarité. Et je pense que notamment en ce qui concerne la question des réseaux sociaux, c'est plus que de faire simplement des clics pour partager, c'est vraiment important de traiter les informations et d'apporter un message. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un peu sous-estimé comme travail, mais en réalité, c'est vraiment important parce que c'est à travers ça qu'on essaye, c'est à travers ce traitement médiatique, à nous, un traitement alternatif des médias, qui peut nous permettre aussi à dégager certaines stratégies ou tactiques de mobilisation et de lutte ici. Il ne s'agit pas uniquement de répercuter les messages qui nous viennent de la Colombie. Il faut que nous, on fasse une sorte de traduction à la réalité d'ici. Comment est-ce qu'on peut, en Suisse, en Europe, trouver les chemins et les portes? Comment on peut ouvrir les portes de ce qui se passe en Colombie? Ce n'est pas évident. Il faut vraiment analyser les différents mouvements. Et puis, il faut certainement tenter aussi d'aller demander à des organisations sociales et politiques ici de se prononcer. Pas nécessairement pour que ça ait un impact auprès des gouvernements immédiatement, mais pour ouvrir des portes, justement. Et ces portes qui sont ouvertes maintenant, elles vont peut-être, dans les prochaines mobilisations de ces prochaines années, être encore plus importantes, ces portes à ouvrir. Et peut-être que là, on aura une masse critique qui nous permet aussi de reconstruire un mouvement de solidarité qui soit plus fort. Donc, voilà, c'est plus ou moins ça que je voulais dire pour conclure cet entretien. Merci encore, William,
merci à toi, merci
à ta disposition.
Alors, Ringo, le mot de la fin pour toi. Maintenant, je vais te poser une question, tu y répondras ou tu iras là où tu le souhaites. Voilà, on en est à peut-être à un moment charnière, un moment clé dans ce qui se passe en Colombie, pour la Colombie et pas que. Peut-être également pour les pays alentours, voire même pour d'autres continents. Est-ce que, selon toi, le vote peut-il être l'allié de la rue? Est-ce qu'on peut encore s'attendre à quelque chose de ce point de vue-là? Ou est-ce que le rapport de force, un nouveau rapport de force, ne pourrait se sortir que de la rue, ne pourrait être forgé que par cette lutte dans la rue?
Et en 1948, a été tué Jorge de Ser Gaetan. C'était un candidat indépendant de ce qu'on pourrait appeler les libéraux de l'époque. Et lui, il avait un programme progressiste qui ici serait plus ou moins de la social-démocratie, et de développement des services publics, contrôle des ressources naturelles, et développement de l'enseignement, des services de base pour la population, l'infrastructure, développer les commerces, l'industrie. Donc, des tâches tout à fait bourgeoises, démocratiques, mais progressistes. Mais malgré que ces tâches étaient nécessaires pour le pays, malgré que c'était nécessaire, l'oligarchie n'a pas accepté. Et le 9 avril 1948, ce leader qui pouvait gagner les futures élections a été tué. Au moment qu'il a été tué, en Colombie, à ce moment, il y avait une conférence panaméricaine dirigée par les Américains, dans laquelle, en fait, ils disaient que l'Amérique latine doit se ranger du côté de la guerre froide parce que c'est fini l'alliance avec les communistes dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, les communistes et la gauche doivent être écartés, le cartel doit être même persécuté. Et donc, en Amérique latine, comme aussi en Europe, aussi, il y avait des gouvernements de front populaire dans plusieurs pays où il y avait des alliances socialistes, communistes, radicaux, libéraux au pouvoir. L'assassinat de ces leaders a déclenché pratiquement une guerre civile qui aura la particularité d'être extrêmement violente, plus de 100 000 morts. L'armée, au départ, elle était partagée parce que l'influence du leader assassiné était très grande, mais lors d'une manifestation, les tourelles des tanks qui sont retournées, c'était à la mort des manifestants, se sont retournées et massacrées 17 000 personnes. Et là commence une guerre civile tellement cruelle parce que les conservateurs qui étaient alliés avec les Américains vont dire aux gens, si tu tues un libéral, tu peux saisir sa maison. Tu peux prendre ces terres. Alors, imaginez-vous ce qui pouvait enclencher Si vous trouvez votre vaccin, vous pouvez prendre sa voiture et sa maison. Donc, c'est cette guerre qui va durer 10 ans, qu'on appelle la violence, dans les livres d'histoire, on appelle la violence, va faire que certains secteurs qui n'étaient pas du tout communistes commencent à s'armer pour se défendre parce qu'on venait les tuer. Et parmi ces gens-là, il y avait un monsieur au centre du pays qui avait 17 cousins. Et avec eux, ils ont dit, on ne sait pas aller nulle part avec toutes nos familles, sur nos terres sont ici. Et ce monsieur a décidé de s'armer et se défendre. Ce monsieur va être le fondateur des FARC. Non, les FARC sont nés de cette guerre civile de l'année 48, dans laquelle les Américains ils ont considéré que ces paysans qui défendaient juste leurs terres, leurs familles, étaient des avancées soviétiques, qui étaient des communistes cachés, et donc ils ont décidé de les bombarder. C'est là que commence le conflit colombien jusqu'à maintenant, depuis l'année 48, le 9 avril, quand ils se massacrent. Aujourd'hui, pour répondre à la question, il existe un deuxième Eliezer Gaetan, s'appelle Gustavo Petro. Gustavo Petro représente l'aile de la gauche modérée. Il a un programme d'activation économique avec des fonds de l'intérêt public, limitation de l'extractivisme, développement des modèles alternatifs de consommation. Il est soutenu par un large front qu'on appelle le pacte historique. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui il y avait des élections en Colombie, Gustavo Petro gagne, il gagne de loin. Donc maintenant, les Américains, les Suisses, les Européens doivent savoir s'ils vont accepter que l'histoire de la Colombie puisse être écrite d'autre manière que par la violence et la dictature. S'ils laissent les Colombiens s'exprimer librement, il n'y a pas de fraude. À ce moment-là, Gustavo Petro sera le nouveau président sans faute. Et aujourd'hui, il dépasse de loin pour le double à n'importe quel autre candidat de l'extrême droite. Mais d'ici un an, il y aura les élections. Est-ce que Gustavo Petro va être tué ou pas? On ne le sait pas. De quoi dépend qu'il ne soit pas tué? Simplement de l'attitude des gens qui soutiennent ce régime, donc les Européens et les Américains. Si les Américains et les Européens décident de laisser les jeux démocratiques se développer, ils laissent la place pour que les gens puissent s'exprimer librement, alors à ce moment-là, il n'y a rien à craindre. La Colombie va rentrer dans un nouveau période de développement et pour la première fois va connaître un gouvernement progressiste. Non, ce n'est pas le Colombien qui pose le problème. Mais l'ordre international qui fait qu'en Colombie, les gouvernements les plus abjects sont soutenus par les forces étrangères, défendus internationalement, couverts dans leurs crimes, et empêche que les démocrates puissent librement s'exprimer et que dans un jeu tout à fait équilibré, correct, garanti pour tout le monde, la population puisse s'exprimer. Aujourd'hui, à ce moment-ci, s'il y avait des élections, Gustavo Petro allait gagner. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette grève, cette victoire? Cette victoire est la première d'une série de grèves qui vont avoir lieu jusqu'à arriver dans un an à l'élection dans laquelle si les Américains et les Européens ne se mêlent pas du côté de la mafia, de la fraude, des paramilitaires, des trafiquants, s'ils laissent la population s'exprimer, on aura un gouvernement progressiste et là, on peut avoir l'espoir que beaucoup de choses vont s'améliorer. Mais il faut, pour une fois pour toutes, que l'Europe considère les droits démocratiques, le respect des droits internationaux soit une priorité et pas l'intérêt du business de l'ordre multinational. Si les Suisses, les Européens sont capables de penser autrement ses relations avec l'Amérique latine, ils n'auraient pas besoin de guerre civile ni de lutte armée. Ils auraient des gouvernements démocratiques qui vont développer tel qui s'est développé ici, l'industrie, l'infrastructure, les droits démocratiques, les progrès, les sciences, etc. Donc, la principale limitation au développement démocratique, la principale limitation au développement de la souveraineté nationale provient d'un ordre international abject, lequel nous voulons changer. Et c'est pour ça qu'il est très important, et en ça rejoint à Esteban, il faut ici prendre notre part parce qu'il faut faire avancer les idées progressistes, pas seulement pour rapport à l'économie, mais pour les demandes ici, pour la situation concrète ici, parce que si elles ne sont fortes ici, nous pouvons donner un soutien plus important et conséquent là-bas où ça va se jouer d'ici à un an une situation capitale. Il est aujourd'hui possible de changer la donne, de mettre fin à la violence en Colombie, mais pour cela, il faut que les acteurs internationaux arrêtent de soutenir les crimes.
Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir pris tout ce temps. Ringo et Esteban pour, voilà, comme on l'a dit, nous donner des jalons, tracer les contours de cette situation complexe et terrible qui assiège les populations civiles en Colombie. On l'a bien compris, hein, c'est cet internationalisme populaire, solidaire, qui va, on espère en tout cas, nous mener vers quelque chose d'autre que l'horreur capitaliste prédatrice qui accourt en ce moment. Alors pour en terminer, eh bien nous allons rappeler que samedi il y aura donc une manifestation à 14h place des Nations à Genève. Alors je ne sais pas si nous pourrons mettre en ligne ce podcast par avance avant ce jour-là, mais quoi qu'il en soit, des manifestations auront cours et elles se suivront certainement des manifestations de solidarité. Et donc voilà, eh bien nous continuerons de relayer ces dates et en espérant, en invitant le plus grand nombre à se solidariser, voilà, avec la Colombie, mais pas que, les pays d'Amérique latine. On a cet été les zapatistes qui vont débarquer, qui vont accoster en Europe. On espère que des belles rencontres vont se produire à ce moment-là. Auriez-vous, pour en terminer, envie d'ajouter, voilà, une petite phrase de la fin, un petit appel, un petit lien ou un petit élément qui pourrait nous permettre d'aller encore plus loin dans l'information, dans la contre-information et dans l'envie de se solidariser avec les populations en Colombie. Esteban, est-ce que tu veux commencer? Ou est-ce que...
Je ne sais pas s'il y a un élément, mais en tout cas, peut-être une annonce, disons, qui n'est pas immédiate, mais c'est qu'avec l'association Arlac, nous sommes en train de préparer un site internet justement pour essayer de systématiser ce travail de diffusion d'informations avec un site qui soit multilingue. Donc ce travail-là, on est en train de le faire et puis on le diffusera très bientôt. C'est dommage qu'on n'ait pas pu l'avoir prêt tout de suite, mais en tout cas c'est très bientôt qu'il va sortir. Et puis peut-être aussi une invitation, William, parce qu'on est en train de travailler aussi sur des projets de nouveaux médias, de nouveaux contenus, et donc une invitation à toi, William, à essayer aussi de avec toute ton expérience à nous conseiller et puis à nous aider à faire des petites capsules d'information ou avec des podcasts, et puis notamment à Lausanne, il y a la création, la tentative de création d'une radio associative. Et donc il y a des projets en tout cas pour essayer de faire reprendre un peu aussi ces médias audiovisuels et pas seulement écrits, qui est une tâche aussi assez importante de ces prochains temps.
Fantastique. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Évidemment, on en reparlera. Merci beaucoup. Ringo, à toi la parole.
Et pendant des années, nous avons comme association assisté les dirigeants syndicaux en Colombie. Et par exemple, quand il y avait un procès, on envoyait des dirigeants des syndicats belges sur place dans le procès. Et les juges, qui d'habitude ils sont méchants, devenaient tout à coup professionnels et libéraient les gens. Non, comme ça, on a libéré plus de 27 dirigeants syndicaux qui étaient des charges lourdes. Par exemple, on avait eu à l'époque une dirigeante syndicale qui après s'est exilée en Suisse, et elle est venue, elle était longtemps en prison, et quand il avait fait sa tournée en Belgique, en Europe, le gouvernement l'avait accusé de que c'était les FARC qui avait financé sa tournée en Europe. Mais c'était les syndicats belges. Et non, les syndicats belges étaient allés avec les pièces de conviction et les preuves de paiement des tickets et tout. Et ils ont fait tellement pression que la camarade a été libérée. Donc, la solidarité internationale, ça peut fonctionner, même si c'est peu, mais ça a un effet. Il est possible de faire des petites tâches, des petites campagnes de libération d'un autre prisonnier politique, et ça a un effet énorme. Et pour la première fois en Colombie, des soldats publiquement, avec leur identification, ils ont dit qu'ils ne seraient pas à même de tirer contre la population. Ces gens-là sont emprisonnés sous des conseils de guerre. Il y a de la police militarisée qui les détestait, qui s'appelle SMAT, ces gens-là aussi, ils ont marché avec les manifestants pour défendre la population. Donc, on est au même moment qu'il y a tout ça, et on voit qu'il y a un émiettement, qu'il y a un fractionnement, qu'il y a une érosion dans la Paris de répression, ce qui laisse entendre ou imaginer que la crise que souffre l'oligarchie, elle est très large, il pourrait par étapes, avec de nouveaux grèves, de nouveaux mouvements, et finalement l'élection d'un gouvernement alternatif pour être mis à terre. Donc nous souhaitons ça, par le mouvement de masse, par la démocratie, par la votation, par les jeux démocratiques. Mais nous avons besoin que les démocrates, les progressistes, aussi bougent pour permettre de donner l'air, parce que ce gouvernement n'existe que par la volonté occidentale. Si les gouvernements occidentaux, les cercles de pouvoir les lâchent, ils ne durent pas une journée. Ils sont des gouvernements tout à fait antipopulaires, issus de processus frauduleux. Donc, si aujourd'hui on sait bouger les choses ici, là-bas c'est très important. S'il y a en Suisse, dans une manifestation, la police ne va pas tirer sur les manifestants par peur de l'image. Donc, on est vivement en contact avec nous, avec Esteban, des gens qui veulent se rendre sur place seront très bienvenus.